à tous nos auditeurs sur Radio Grand-Ciel. Vous écoutez l'émission Personnages insolites, présentée par
Elisabeth Couget
et Christine Infota. À la technique, nous avons Simon Martin. Quel est le personnage, Christine, que tu nous as choisi ?
Un personnage tout à fait insolite qui a défrayé la chronique au XVIIIe siècle et qui n'est pas totalement inconnu des amateurs de mots croisés. En trois lettres, espion travesti au service de Louis XV.
Éon.
Ah bah du premier coup tu as trouvé, Antoine, d'accord.
Oui.
Le chevalier ou la chevalière, car tout le problème est là. Déon, le chevalier Déon, naît à Tonnerre, en Bourgogne, le 11 octobre 1728. Le docteur qui a présidé à l'accouchement n'est pas en mesure de dire si le bébé est garçon ou fille, mais il espère que la nature se développera bientôt et qu'il sera, je cite, « garçon par la grâce de Dieu » ou « fille en vertu de la bienheureuse Vierge Marie ».
C'est un problème délicat qui était créé par le médecin finalement,
tout de suite.
Qui n'était pas sûr. De...
Donc un doute demeure, mais on décide de l'élever en garçon. C'est la volonté du père et... D'autre part, sa grand-mère maternelle a promis 12 000 livres à sa fille si elle donnait naissance à un fils. Bon. Alors, comment l'appelle-t-on ? On l'appelle Charles Geneviève Louis. Louis sera son prénom principal. Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Déon de Beaumont. Et il est baptisé trois jours plus tard. Six prénoms qu'il raccourcira par leurs initiales en signant C-G-L-A-A-T Déon de Beaumont.
Oui, c'est un peu plus court quand même. Et Geneviève alors ?
Geneviève.
Ben,
en fait, il arrivait assez souvent qu'on accola un prénom féminin aux autres prénoms d'un garçon. Par exemple, beaucoup de garçons s'appellent Marie.
Marie, ça je connaissais. Mais...
Louis Léon fait preuve dès sa jeunesse d'une grande vivacité d'esprit et cherche à se dépasser aussi bien intellectuellement que physiquement. Il est passionné de lecture, mais il est aussi passionné de sport et tout spécialement d'escrime où il va montrer des dons exceptionnels. Donc une jeunesse studieuse, un caractère agréable et amical.
Alors quelles sont les études qu'il va choisir, Louis ?
Il est issu d'une lignée familiale de juristes et donc il va choisir cette voie. Licencié en droit à 17 ans, il s'inscrit comme avocat au Parlement de Paris. Il traverse toutefois une crise intérieure. Il dit dans son autobiographie « J'avais deux personnalités ». Il est en fait traversé de désirs contradictoires. Il aime les livres, mais il voudrait aussi connaître... C'est lui qui parle, l'ivresse des combats et le fracas des armes.
En guise de remède, il se plonge dans les études.
Avec passion, il se lance dans l'étude, ça paraît sérieux, de l'administration du royaume et publie en 1753 un essai sur les finances de la France. Un essai remarqué. À 25 ans, il passe déjà pour un homme de lettres érudit et mène... de pair, une vie mondaine intense. Il va accéder très vite à des postes de responsabilité dans le gouvernement royal. Notons aussi qu'il se plaît à se travestir en femme lors des bals masqués qui font fureur en cette époque quelque peu décadente.
Une rencontre va alors sceller son destin.
Il rencontre le prince de Conti, le propre cousin du roi Louis XV. Séduit par, par sa personnalité brillante, par son humour, son intelligence, le prince de Conti va demander au chevalier Déon, va lui soumettre une proposition tout à fait surprenante.
Alors c'est quoi ? Quoi exactement ? C'est-à-dire ?
Eh bien, le roi de France souhaite le recruter comme agent secret. Louis XV avait en effet décidé de mettre en place une diplomatie parallèle à la diplomatie officielle. Et pour ce faire, il créa un réseau d'agents secrets qui dépendaient directement du roi. Des agents très spéciaux, presque James Bond, avec toute la panoplie de l'espionnage, lettres secrètes, messages codés, tout ça. Le chevalier Déon serait envoyé en mission en Russie pour obtenir un accord de paix, une alliance. Mais attention, déguisé en femme, car, lui dit le prince de Conti, vous devrez vous revêtir de vêtements féminins et vous comporter comme une femme.
Ah, et comment Le chevalier Déon va réagir à tout ça.
Il est au comble de la surprise. Il bafouille quelques paroles et accepte les ordres. Déon arriva en Russie avec deux malles, l'une de vêtements d'homme, l'autre de vêtements de femme. Jamais, dit-il, la postérité ne pourra croire de tels faits.
C'est vrai que ça paraît assez invraisemblable. Mais... Alors, avec son goût du travesti, l'énigme de son identité sexuelle se pose très tôt dans sa carrière, finalement.
Sa mission, c'était de devenir la confidente et l'amie de la tsarine Élisabeth et de la convaincre de faire alliance avec la France. Déon va rester 4 ans en Russie. Il se fait appeler Mademoiselle Déon et dès lors revêt un double personnage, une double identité.
Donc, le voilà à Saint-Pétersbourg, capitale impériale de l'immense Russie.
C'est l'hiver, les sols sont gelés, les toits couverts de neige. Il fait un froid terrible. Je me figurais que la Russie était un Pérou qui allait ouvrir tous ses trésors pour moi.
Ah, pas de café ici, n'est-ce pas, alors? C'est très difficile pour lui, alors. La Russie accepte de faire alliance avec la France grâce à lui, finalement?
Oui, alors, tu sais qu'en fait, Saint-Pétersbourg, c'est une capitale qui est sortie des eaux, le rêve de Pierre le Grand.
Absolument.
Avec des palais aux façades colorées. Mais c'est aussi une ville en trompe-l'œil, un bout du monde mélancolique. Il n'y a pas de café comme à Paris, justement. Et le climat est très maussade. La Sémiramis du Nord, comme on l'appelle, le déçoit.
Ah, ça faisait un des noms de Catherine.
Un des noms de
Nous en avons parlé comme personnage insolite, voilà. Parce qu'elle est aussi un personnage assez
Mais
insolite.
Mais Déon joue bien la comédie. Personne ne devine les vraies raisons de sa présence en Russie.
Comment ça se fait?
Il, elle, c'est là qu'on pourrait dire « il », il ou elle, remet les lettres secrètes du roi à la tsarine. La mission est un franc succès.
Ah oui.
Et donc,
la Russie va accepter finalement cette alliance.
Voilà, bien sûr, elle va accepter. Et puis Déon a un charme fou. Il fait venir aussi de sa Bourgogne natale des vins, les vins de Bourgogne, dont il régale ses invités en Russie. Son succès est tel que la tsarine va lui proposer d'entrer à son service.
Alors, qu'en pense de cela le chevalier Déon?
C'est non. Il ne supporte plus Il ne supporte plus le climat russe, ni ses intrigues, ni ses méthodes expéditives. Ah, oui. Depuis que je suis à Saint-Pétersbourg, dit-il, j'ai toujours le dos tourné à la Sibérie, trop heureux d'y avoir échappé et les yeux fixés sur ma patrie.
Donc je crois qu'il revient en France avec plaisir et rassuré.
Après 4 années à Saint-Pétersbourg, il revient donc à Paris à bride abattue. Mission accomplie. Louis XV le félicite. Bravo, chevalier. Et merci. Il lui accorde une pension de 3000 livres.
Par an, oui.
Le fait lieutenant de dragons et lui offre une tabatière en or. Ah,
bah,
une petite pause musicale avant de retrouver le destin du chevalier Déon.
Après cette petite musique, nous allons retrouver la vie palpitante et tout à fait étonnante du chevalier Déon.
Il est à présent considéré comme un diplomate confirmé. C'est un bourreau de travail, à l'esprit subtil et incisif. Personne ne se doute de son rôle secret. Il a tout de même contribué à renouer les relations diplomatiques entre la France et la Russie.
Alors sinon, comment se passe son retour en France, puisque c'est quand même, il est resté absent 4 ans, voilà.
Eh bien, il se passe mal, car dès son retour, il s'alite, atteint de la petite vérole. Mmh. La petite vérole est une des plus funestes maladies de cette époque, dont d'ailleurs mourra Louis XV. Le chevalier Déon s'en sort et, remis sur pied, demande à rejoindre son régiment de dragons pour partir se battre dans les armées du roi.
Il n'a aucune expérience finalement de la vie militaire, par contre plutôt les salons, il connaît plutôt, mieux les salons.
Mais le chevalier Déon est l'homme des défis. Redevenu homme, justement, il devient aide de camp du comte de Breuil. Et voici notre dragon en Allemagne. Il participe à l'action. Avec bravoure, avec panache, il se distingue à plusieurs reprises. Mais la mort de la tsarine Elisabeth en Russie le 17 décembre 1761 le rappelle en France. Il a alors 33 ans. La France perdait en la tsarine Elisabeth sa précieuse alliée et le chevalier Déon était considéré comme le meilleur connaisseur de la Russie.
Alors le coup d'état de Catherine II qui s'empare du pouvoir va changer la donne.
Louis XV décide alors d'envoyer Déon à Londres pour une mission pas facile. Il s'agit de négocier les conditions d'un traité de paix avec l'Angleterre.
Alors après la guerre qui a duré 7 ans, l'Angleterre s'était emparée de la quasi-totalité de l'empire colonial français.
Oui, le Canada, les Indes.
Les Indes, oui.
Louis XV voulait une revanche sur l'Angleterre qui avait ruiné son pays et pris son empire colonial. Le chevalier Déon est aussi chargé de 2 missions secrètes. 1. Dérober des documents. Et 2. Inspecter les côtes anglaises en vue d'un éventuel débarquement, qui ne s'est jamais fait.
Finalement, ça ne s'est pas fait.
Parti en Angleterre le 11 septembre 1762, Déon est de retour à Versailles quelques mois plus tard avec le traité et les missions secrètes accomplies. En remerciement, Louis XV lui accorde cette fois-ci la croix de Saint-Louis, 6000 livres, il double sa pension. Et après le départ de l'ambassadeur de France, il charge le chevalier Déon d'assurer l'intérim à Londres, à l'ambassade de France, donc en Angleterre.
Alors vraiment, là, je crois qu'on peut dire qu'il est devenu un personnage important.
C'est vrai. Il est reçu en audience privée par le roi d'Angleterre. Il mène grand train, il donne des réceptions de faste. Et c'est vrai que la réussite du chevalier Déon est extraordinaire. Petit noblio de province, il est maintenant ministre plénipotentiaire de l'une des plus grandes ambassades d'Europe.
Oui, il doit avoir la tête qui tourne. Hein. Alors, il se sent poussé des ailes. Il se sent indispensable.
Et il ne va pas accepter d'être relégué à la 2e place par la nomination d'un nouvel ambassadeur à Londres, le comte de Guerchy. Le chevalier Déon juge le comte de Guerchy moins compétent que lui. Il s'en offusque, il voit en lui un rival et il en devient même furieux. Et il ne se laisse pas intimider. Il est diplomate, c'est vrai, mais il est aussi capitaine de dragons redoutable à l'épée.
Le chevalier devient quelque peu encombrant, j'ai l'impression, pour le royaume.
La querelle s'envenime entre les 2 représentants du roi de France et par ailleurs passionne les Anglais qui trouvent ça très amusant. La verve insolente du chevalier Déon et son humour ravageur font mouche.
Et c'est aussi un combat des forces du progrès contre la tradition et du talent contre les prérogatives de la naissance.
Exactement.
C'est tout à fait ça. Hein.
Et puis Déon vit dans la hantise d'être enlevé et assassiné par des hommes au service de Guerchy, en quoi il n'avait pas tout à fait tort. L'affaire prend des proportions incroyables. Déon versus Guerchy.
Ah oui, d'accord. Alors, comment Déon va réagir finalement ?
Alors, Déon est même traduit en justice pour avoir publié un pamphlet diffamatoire. Puis alors, coup de théâtre, Guerchy est à son tour traduit en justice pour tentative d'assassinat sur Déon. Tu vois, il n'avait pas tort.
Oui, tout à fait.
Le chevalier savoure son triomphe. la tête basse, Guerchy a rappelé d'autorité en France. Quant à Déon, son angoisse avait été telle qu'il se cachait sous des vêtements féminins, se faisant passer pour une certaine Miss Laughlin.
Ah, c'est étonnant.
Cela
devient une habitude. Qu'est-ce qu'il y avait après ? Il y avait un coup de théâtre, quand même.
Cela devient une habitude. Hein, donc, alors, le secret du roi, tu sais, tu t'en souviens ?
Oui, absolument.
Le secret du roi Louis XV. Donc, Déon y retourne comme informateur, avec cette fois-ci 12 000 livres. Il double encore sa pension. Ses rapports sont d'une précision extrême, agrémentés d'un vrai talent de conteur et de beaucoup d'humour. Et dans l'ambiguïté de sa position, il crée son propre réseau d'informateurs et s'affilie à la franc-maçonnerie.
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et je crois qu'il avait quelquefois pas tort. Alors, comme presque tous les hommes éclairés à son époque, finalement.
C'est vrai.
Il y avait d'autres, Mozart, bon, entre autres.
Déon est donc encore un agent secret qui glane des renseignements pour le compte du roi de France. Mais il est en même temps tellement apprécié des Anglais qu'il souhaite qu'il se naturalise anglais.
Bon. Ah, carrément.
Parallèlement, il écrit une œuvre considérable sur tous les thèmes possibles. Et il enrichit sa bibliothèque, dont le catalogue dressé en 1791 est digne des plus grands collectionneurs de tous les temps.
Alors, que deviendra finalement cette bibliothèque ? On n'en a pas trop parlé par la suite.
En 1791, elle sera dispersée aux enchères par Christie's à Londres. Mais revenons en 1770. Une étrange rumeur court dans Londres et bientôt dans toute l'Europe.
Alors, c'est quoi ? Quelle rumeur ?
Le chevalier Déon serait une femme. C'est vrai qu'avec tous ses déguisements, il a 42 ans, il n'est pas marié, on ne lui connaît aucune aventure. Et comme il le dit, il vit, je cite, « sans chien, sans chat, sans perroquet et sans maîtresse ». Mais pourquoi le prendrait-on pour une femme ? Il n'est pas efféminé. Sa passion pour l'escrime est connue. À Londres, les bookmakers qui font des paris sur
surtout,
font même des paris sur le genre du chevalier Déon.
Finalement, c'est un personnage très moderne dans notre époque, n'est-ce pas ? Alors, comment va réagir Déon à tout ça ?
Il laisse dire. Peut-être se plaît-il à ce double jeu qui fait le sel de sa vie. En tout cas, il travaille 15 heures par jour. Et, je le cite, « l'étude est un plaisir dans les moments heureux et un refuge dans l'adversité ».
Et comme c'est vrai, c'est très juste ce qu'il a dit là.
Quand soudain, le 10 mai 1774, Louis XV disparaît en quelques jours, frappé par la petite vérole. Quel est-il advenir des agents secrets de cette diplomatie parallèle ? Nous le saurons après une pause musicale.
Voilà, nous nous reprenons dans notre émission Personnages insolites sur Radio Grand Ciel la vie vraiment très étonnante du chevalier ou de la chevalière Déon. Et nous venons effectivement à Louis XV qui l'occupait et qui avait besoin de ses services vient de mourir. Il est remplacé par Louis XVI. Il arrive au pouvoir. Alors, va-t-il s'occuper
que de... va-t-il se passer
voilà, va-t-il s'occuper finalement des
le
savoirs
le chevalier Déon,
Déon,
qui est à Londres toujours, détient des pièces compromettantes. Louis XVI étudia scrupuleusement le dossier du secret avec le comte de Vergennes, son ministre des Affaires étrangères, et il décida de supprimer cette institution.
Tout simplement. Alors, que va devenir notre chevalier Déon ?
Il peut revenir en France à condition de remettre les documents en sa possession. Mais le chevalier va mettre la barre très haut. Il est au bord de la paranoïa. Comme il craint la vengeance de Guerchy, le chevalier Déon, pour se protéger, souhaite que soit officiellement reconnu son état de femme. Entre guillemets.
On ne touche pas à une femme.
Ah ben oui, exactement, c'est exactement ça. Parce qu'il, dit-il, la volonté paternelle seule l'aurait fait passer pour garçon. Le chevalier devient totalement incontrôlable. Après plusieurs négociateurs éconduits, on lui envoie Beaumarchais.
Mais alors, sait-il encore s'il est un homme ou une femme ? On se pose la question. Il l'a vraiment perturbé. Alors, que disait Beaumarchais, qui est si doué pour l'intrigue, libertin, cynique, railleur, sceptique ? N'oublions pas, c'était le père du Figaro.
Beaumarchais, a-t-il vraiment fini par prendre ce capitaine de dragon de 47 ans pour une fille d'Ève ? En tout cas, bon comédien, il feint d'y croire pour faciliter les négociations. Le 14 juillet 1775, Beaumarchais rapporte la bonne nouvelle à Paris. Il a tous les papiers détenus par Déon. Le chevalier devenu chevalière peut rentrer à Paris moyennant une rente de 12 000 livres par an. Une condition, il devra désormais s'habiller en femme, d'après le traité officiel conclu entre Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais et demoiselle Charles-Geneviève Déon de Beaumont. Déon accepte, demande même à Sa Majesté Louis XVI de l'argent pour son trousseau de femme et la permission de porter la croix de Saint-Louis sur ses vêtements féminins.
C'était pas très courant, pourtant.
C'est tout à fait exceptionnel.
Un bijou typique des femmes, alors. Le chevalier Déon va devenir, donc, la chevalière Déon.
Le bruit se répand même à Londres et à Paris du prochain mariage de Caron de Beaumarchais avec la demoiselle Déon de Beaumont. Mais le ton monte entre ces deux-là. Déon se sent ridiculisé et furieux. Il écrit à Beaumarchais une lettre de 38 pages qu'il signe « Le chevalier et la chevalière Déon ». Tout cela laisse Déon meurtri, déchiré par ses contradictions.
Alors, il était parti plein d'espoir à l'aube d'une carrière diplomatique riche de promesses. C'était ça les débuts.
Il est pris à son propre jeu. Le voilà obligé d'être une femme et de se comporter comme telle. Louis XVI ne lui permet même pas de garder son uniforme de capitaine des dragons dont il était si fier. Et ça, pour lui, c'est une nouvelle accablante. Marie-Antoinette lui envoie sa couturière, la célèbre Mademoiselle Bertin, pour lui confectionner un trousseau complet. Jusqu'à sa mère, qui, je cite le chevalier Déon, « dans ma jeunesse m'a mise en culotte et veut aujourd'hui me mettre en jupe ». Se travestir d'accord, mais de là à nier son côté masculin, une situation invraisemblable, un complot général.
Alors Mademoiselle Déon, la mort dans l'âme, enterre son double, le capitaine des dragons.
Mais Déon ne perd jamais le sens de l'humour. Et pour parachever cette tragicomédie, il choisit le 21 octobre 1777, fête de Sainte-Ursule, en souvenir, dit-il, de 4000 vierges massacrées en Angleterre, pour enterrer sa vie de garçon. Arrive Mademoiselle Bertin et ses robes excentriques, Déon se compare à une place forte assiégée par la marchande de mode.
Alors il s'agit d'accomplir... l'ordre de la loi et du roi.
Sanglé dans sa belle robe, les pieds serrés dans des chaussures à talons, un bonnet de gaze sur la tête, l'ancien capitaine de dragon essaie de se croire une femme. Le 23 novembre, il est présenté à Versailles. Apparaître dans la galerie des glaces fut pour lui le comble de l'humiliation et du ridicule.
Il est exposé aux moqueries. Il fait figure de curiosité, voire de monstre.
Il devient un phénomène de foire. Mais n'oublions pas les qualités du personnage. Un esprit brillant, extrêmement cultivé, une gaieté de cœur qui le rend populaire.
C'est ça. Le fréquenté devient d'ailleurs le comble du snobisme, du chic.
Déon est un être dont la complexité s'accroît au fil des jours, depuis cette métamorphose imposée et consentie. Il éprouve un trouble profond quant à sa véritable identité sexuelle. Novembre 1785, le voici de retour à Londres. On avait connu un capitaine de dragon diplomate, on voit revenir une plantureuse matrone. Peu importe, les Anglais aiment les excentriques. Et bien que devenue à 57 ans une grosse dame, vêtue de soie noire et d'une robe à trois jupons, Déon se remet avec succès à l'escrime.
Alors que se passe-t-il pendant la Révolution, puisque c'est quand même, c'était une période trouble, difficile.
Eh bien, Déon applaudit au début de la Révolution, souhaitant, comme en Angleterre, une monarchie constitutionnelle. Et il signe alors, d'ailleurs, la citoyenne Geneviève Déon, en un seul mot, comme par exemple Michel Déon. Mais la République va lui supprimer sa pension. Et la vie va devenir très difficile pour Déon, qui va s'enfoncer peu à peu dans la misère et se voit contraint de vendre en 1791, on en a parlé tout à l'heure,
sa précieuse bibliothèque. Exactement.
Et même pour gagner un peu d'argent, il, elle, fait des tournois d'escrime et il sera blessé malheureusement le 26 août 1796.
Alors à 68 ans, elle est désormais fragile et dans une profonde misère financière.
Il ne lui reste en tout et pour tout que la croix de Saint-Louis gardine de diamants et la tabatière ornée d'une miniature de Louis XV enchâssée de brillants. L'épouse du roi Georges III, touchée par sa détresse, lui accorde une modeste pension et sa santé décline jusqu'à sa fin le 21 mai 1810. Et là, stupeur.
Alors, on va enfin découvrir qu'il est un homme quand même.
Aucun doute. Déon fut inhumé à Saint-Pancras, en Angleterre, dans le Middlesex.
Ah, d'accord, drôle comme nom, hein. C'est une région d'Angleterre, mais effectivement, ce nom, ça convient très bien à la situation du chevalier.
Pendant 48 ans, Déon était passé pour un homme, pendant 33 ans pour une femme. On ne lui connaît aucune aventure. Mais cette personnalité à l'immense culture éblouissante était aussi un être égocentrique et narcissique.
Il était parfait dans ce rôle de diplomate secret, je crois.
C'est vrai. Mais en perdant son identité, il se perdait lui-même. Un séisme intérieur, un dédoublement de personnalité. Sa célébrité, au fond, était fondée sur une mystification, une imposture. À la fin de sa vie, il cherchera une aide dans la religion et écrira son autobiographie. Prière et écriture deviendront des exercices salutaires.
Voilà. En tout cas, il n'a jamais cessé d'intriguer les foules. Son personnage fait presque figure de mythe aujourd'hui.
Une vie romanesque, une personnalité insolite, qui fut aussi un acteur important de la géopolitique de son époque et qui nous permettra peut-être de mieux comprendre le malaise, le trouble intense des personnes qui ne se sentent pas clairement hommes ou femmes.
Et oui, c'est vrai que quand on n'a pas ce problème-là, on ne se rend pas tout à fait compte. Alors, et voilà, et ce qui fait en fait un écho au débat sur le genre que nous vivons actuellement. Merci Christine d'avoir évoqué aujourd'hui le chevalier Déon. Maintenant, on ne parle plus de chevalière. Merci et à bientôt sur Radio Grand Ciel.
À bientôt. Thank you.